ensuite, les gens parlent d'exporter la vie terrestre, coloniser Mars, se prendre des lâches sans retour, envoyer des personnes à la conquête de la galaxie, etc. Et en temps passant, on voit que c'est vraiment du fantasme. Je dis ce que vous c'était pas évident. Mais la vie, donc, elle a été longtemps représentée par un arbre. Et maintenant, ce qu'on apprend avec la génétique, c'est d'abord que c'est pas un arbre, qu'il y a beaucoup de choses qui sont croisées, etc. C'est plutôt un buisson très différent. Des branches qui dépendent les unes des autres, des réactions d'un bras à l'autre, etc. Mais plus ou moins vite. Et ça veut dire que les espèces dépendent les unes des autres. Et c'est plus simple, vraiment parfaitement, que dans ce que nous voyons aujourd'hui, l'orchidée a besoin de l'insecte qui est adapté, et réciproquement, vice versa, c'est sûr. Les espèces dépendent les unes des autres. Et donc, lorsqu'on dit qu'on va envoyer l'homme quelque part, c'est pas possible. Il faut envoyer l'homme et son écosystème. Et cet écosystème, c'est l'ensemble de la Terre. Ce que moi j'appelle, c'est mon biologie maintenant, l'éco-génome-système. À la fois un écosystème, où la génétique est telle que l'évolution d'une espèce dépend de l'évolution d'autres espèces. Autres espèces qui peuvent être des espèces macroscopiques ou des espèces microscopiques, souvent microscopiques. Donc nous sommes dans un éco-génosystème. Nous vivons parce que nous avons 3 kilos de bactéries dans l'intestin. Ce ne sont pas des bactéries, ce ne sont pas des bactéries, mais voilà, on est vraiment. Et on évolue les uns en fonction des autres. Et que cet éco-génosystème, il est. Il fait une unité qui est terrestre et qui fait qu'elle ne vraiment cette unité ne peut vivre que sur la Terre. Et que le rêve, le fantasme, les essais, par exemple, le biosphère 2, on a essayé de faire un endroit complètement clos dans lequel on pouvait mettre des petits morceaux de cet écosystème et faire vivre donc des espèces dites supérieures, notamment des êtres humains, sinon des êtres supérieurs. Dans ce qui est entendu, ça ne va pas marcher. Ces systèmes clos ne peuvent pas exister. Et notre système, d'abord, il n'est pas clos. On reçoit des choses de l'extérieur, mais pas mal. On reçoit de l'énergie, on reçoit aussi de la matière organique, à peu près 4000 tonnes par an. Et donc, cet éco-génosystème, ça veut dire que notre espèce, qui dépend de toutes les autres, il n'y a qu'un seul vaisseau spatial, c'est la Terre. Et la conclusion, c'est qu'il faut y faire attention. La conclusion, généralement, d'une intervention, c'est que moi, j'aime bien la vie extérieure, je regarde la vie extraterrestre, je regarde l'exploration martienne, je rêve d'aller plonger sous les glaces d'Europa. Enfin, pas trop, parce que c'est un peu dangereux, mais voilà. Mais, dans les faits, je suis très terrien, très habitant de la Terre, à un moment donné, la réalité, les connaissances humaines que je partage avec les gens qui me font confiance, et les discutent. On construit cette science qu'on appelle l'éthologie, ça nous conduit petit à petit à cette notion qu'il n'y a qu'un seul vaisseau spatial pour l'éco-génosystème terrestre dont nous sommes des êtres conscients, des êtres les plus conscients, c'est la Terre. Voilà. Et ça, je trouve que c'est ça. Et l'écosystème des nafères me semble intéressant aussi parce que c'est un peu en réflexion à ce genre de paradis. Une nafère transplante. C'est intéressant parce que ça fait partie. C'est un écosystème, mais c'est un écosystème qui vit la science. On apporte quand même de l'eau, évidemment, un pied continent, on enlève un peu de santé, etc. Donc, voilà, ce sont des endroits clos. Pour nous, le seul endroit clos, c'est la Terre. Donc, j'espère vous faire réagir.
Alors, moi, je suis totalement sur votre position. Tout d'abord, j'ai l'impression que. En respectant les vérités scientifiques, mais tout d'abord, on devrait dire que c'est pas que déjà on exporte ces vaisseaux ailleurs, dans le sens qu'il est possible d'habiter la Lune, parce qu'on l'a déjà fait, c'est juste pour un temps très limité, donc on peut rester ailleurs que dans la Terre. Les problèmes, c'est que pour l'instant, cette exploitation est juste d'imiter temporairement. Et je trouve que il y a deux problèmes et d'ordre conceptuel que cette position a. Tout d'abord, elle reproduit la position de Michel, la position au fond, toute ligne autour du débat autour de l'Anthropocène. Mais il y a tout d'abord la division ontologique et métaphysique entre la Terre et les restes du cosmos que j'ai du mal à accepter parce que ça réintroduit, Bruno Latour l'a dit de manière très très explicite à Sakalia, ça réintroduit une espèce de tolémaïsme et une espèce de fétichisation théologique de l'espace subliminaire que j'ai du mal à accepter. Et ensuite, l'autre problème, c'est que, et c'est un peu, ça nous rattache un peu, ça nous permet de revenir sur l'ouvrage de, je vais dire son nom, sur ces jardins post-apocalyptiques des Tetsuno Kudo, sur le fait de concevoir la pollution comme quelque chose d'absolument innaturel et contraire à la nature, alors que tout d'abord l'homme est un être naturel, donc n'importe ce que tu fais est naturel. Et ensuite, vous en avez parlé, la grande catastrophe de l'oxygène a été tout d'abord une catastrophe, c'est-à-dire un événement de pollution qui a provoqué la mort de nombreux êtres vivants anaérobies. La pollution est un élément essentiel au développement de la nature. Donc, c'est comme la mort d'ailleurs, comme la destruction, le mélange entre électronique et certaines manières et éléments vivants. Je trouve que la nature c'est ça. Donc au fond dire on ne peut pas revenir à un état, c'est faux parce que il n'y a pas un état non pollué en fait. Il n'y a pas un état, d'ailleurs nous respirons les extrêmement extrêmement polluants du métabolisme végétal. J'ai du mal à revenir à une image extrêmement théologique, donc mysticisant de l'espace subliminaire et totalement romantique par rapport à un équilibre qu'il ne faudrait surtout pas rompre ou casser.
Moi, je n'entends pas du tout comme ça ce qu'a dit Michel. Alors, peut-être que vous, si je suis seul à ne pas voir pourquoi ce que dit Michel est antinomique avec ça, antinomique avec la position.
Mais c'est pas que la Terre n'est pas sur tout. Quand il y a. Je vois bien. Je ne trouve pas que la Terre est un espace unique. C'est un espace qui peut être la source de des espèces vivantes, mais c'est un appel peut-être qu'à un niveau de technique de développement supérieur, la vie humaine soit capable d'implanter tout le monde l'éco-génosystème sur d'autres planètes, comme d'ailleurs l'hypothèse de la part thermique présupposer que la vie soit venue d'ailleurs. Donc, je trouve que mettre une limite ontologique et métaphysique au fait que non, ce n'est pas possible, c'est la science. Là, c'est vraiment les retours de la théologie, ou les retours de la conscience polémique, en fait.
Ah, c'est évident, c'est normal. Il y a plusieurs choses. D'abord, le terme pollution est un terme dont on peut parler, parce que c'est l'oxygène, c'est un élément, est-ce que c'est de la pollution, c'est un autre problème, c'est pas parce que Enfin, pour moi, la pollution, ça ne se définit pas comme ça. C'est quand il y a une surproduction de matériaux par l'origine de l'activité humaine, c'est la série, c'est des matériaux qui produits qui ne sont pas destructibles à l'écologie du système dans un temps historique. C'est dans un temps biologique. C'est l'accumulation-là qui fait qu'on parle de pollution, parce qu'effectivement, cet ensemble-là a pour conséquence de changer extrêmement rapidement l'écosystème, liée de façon liée directement à une activité humaine. Une activité humaine qui n'est jamais essentielle, parce que ce n'est pas une activité vitale. La pollution, c'est vide. Pour moi, le grand événement. La montée de l'oxygène liée au type de bactéries, c'est pas la pollution, c'est une pollution normale, comme un jour, le soleil va se transformer en champ rouge, va brûler, la terre poudra, c'est pas une pollution de la terre.
Et pourquoi les activités humaines, ce n'est pas naturel?
C'est pas qu'elles ne sont pas naturelles, c'est qu'elles produisent des éléments qui ne sont pas métabolisables par la nature, transformables par la nature. Quand je fais du polystyrène, il n'est pas transformable par la nature. Quand on me dit qu'il y a des vers qui sont en train de faire du plastique, ils ne mangent pas, ils ne micro-fractionnent. Alors, après, vous dites tout est naturel, si moi je fais quelque chose, c'est donc naturel, etc. Non, il y a des choses qui sont des produits de la biologie qui peuvent apparaître et disparaître dans la nature. Quand je laboure, quand je fais pousser du maïs, a priori je ne pollue pas. Si je vis des nappes phréatiques, effectivement. Que je mets trop de nitrate, que j'ai des cochons, que je fais une concentration de nitrate phénoménale, etc. Cette accumulation a un effet direct, immédiat, sur le développement de l'intelligence, et là on considère que c'est une pollution. Parce qu'effectivement, ça se traduit par des transformations majeures qui sont hors du temps normal, de la biologie, de la capacité d'absorption dans la vie. Voilà. Maintenant, moi je ne vais pas la faire au centre, simplement la faire clinique. Non, parce que, moi, dans le système solaire, avec la que vous avez, deuxièmement, on s'aperçoit qu'il y a une très grande diversité, par exemple, des satellites. Quand on regarde les satellites de Saturne et Jupiter, ça peut être se promener parfois la même chose, les mangeurs, etc., il y en a un peu pareil. Il y en a, on dirait que c'est des boules de pétanque qu'on a soulevées, il y en a d'autres, c'est de la glace, d'autres, c'est des rochers, il y en a qui est volcanique, il y en a. Et donc, on est une satellite de diversité comme une planète de diversité absolument phénoménale. Et cette planète de diversité, on la retrouvera quand on sera capable de mieux examiner les planètes. Par exemple, on fait qu'on les détecte en observant. On verra cette planète de diversité. Il n'y a rien de biologique dans cette histoire. Hein. C'est vraiment. Alors, ensuite, le fait d'habiter, on n'a pas habité la Lune. Même qu'on n'habite pas dans l'Antarctique. On a une station. Et pour 100% de ce que vous avez dit, on ne prend pas, on ne reste pas longtemps. Je ne vais pas visiter Mars, ce n'est pas possible. Vous pouvez viser Mars, donc là, je dis oui, ce n'est pas possible. Les lois de la physique, de la thermodynamique, depuis un moment, on ne peut pas trouver un moyen de les changer. Voilà, alors on a le droit de penser que c'est possible. On a le droit d'écrire des choses, on dit qu'on peut le faire. Dans les faits, je pense que la connaissance actuelle. Et les connaissances qu'on est capable d'anticiper, les progrès, même des ruptures technologiques, des ruptures scientifiques que vous envisagez dans les 50 ans, pour envisager le cristal. Et avoir discuté sur ce que Kant dit, tout ça, on ne peut pas penser qu'il va y avoir des forces possibles, mais nous, même à travers ces forces possibles, on ne voit pas comment. C'est vrai, c'est des principes fondamentaux, des termes de vie qui font que sur Mars, c'est pas possible.
Pour toi ici, on est dans un espace naturel.
Il n'y a pas de bord nature. Mais comment dire, si on commence à introduire cette logique, alors même les terriers de je ne sais pas quel animal est un espace artificiel parce que ça a été produit. Cette division entre le naturel et l'artificiel est une division que je ne tiens pas un instant d'un point de vue logique et qui relève plus de préjugés d'autres types que scientifique. Et pour, si je peux me permettre de répondre, d'abord, si vous dites n'importe quel endroit la lumière est unique, n'importe quel satellite, donc ça n'a plus de sens de dire la Terre est unique, de toute manière, n'importe quel endroit est unique, donc ça n'est dit plus grand-chose de la Terre, c'est-à-dire ça dit juste qu'elle est unique comme n'importe quel endroit de l'univers, donc elle est juste comme elle est partie de l'univers. Et ensuite, sur les fils, vous dire nous habitons pas Mars, là aussi c'est une question de et comme il y a comme pour dire dans la Terre nous habitons, mais si on prend une échelle temporelle un peu plus vaste de celle de la vie humaine, avec même la Terre, je veux dire, n'est pas essentiellement habitable, elle est devenue, elle va probablement ne plus l'être. C'est juste une question de colonisation, comme d'un point de vue au moins logique, la question de l'implantation des formes de vie terrestre sur Mars, c'est une question de colonisation. Je dis pas que je parle là sur le. Je m'effondre sur un plan. Vraiment logique et conceptuel, évidemment on n'a pas les connaissances et tout, mais on ne peut pas dire que c'est impossible de vivre sur la Lune, étant donné qu'on y a été. Évidemment, ce sont des formes de vie, d'espace d'habitabilité extrêmement limitées, mais on y a été. Oui, mais on y a été. Non, je veux dire, moi je suis un maître un jour. Mais je ne peux pas dire qu'à cause du fait que je suis resté juste un jour, mais c'est inhabitable.
Mais ça me semble assez réconciliable avec ces deux arguments. Parce qu'autant moi je ne suis pas pour un romantisme de la Terre, mais je ne suis pas non plus pour un romantisme de l'espace. C'est-à-dire que, comme c'est Marc Kircher qui a été directeur de l'aérospatiale à Toulouse pendant longtemps, il dit c'est bien beau de vouloir habiter notre planète, mais Mars, concevoir que Mars, c'est le satellite. Dans ton village, Mars, c'est la porte de ton village, la prochaine planète, elle est à Bordeaux.